Bonjour à tous, vous m'entendez?
Ouais, très bien.
Super. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette journée. Et puis voilà, donc c'est une communication qui est co-signée par plusieurs personnes que vous voyez inscrites ici. Alors, je vais tenter de vous parler d'ethno-archéologie et de constitution de référentiel dans le domaine de l'artisanat potier. Alors, l'étude du système technique, et en particulier de l'étude du système technique céramique, s'opère aujourd'hui suivant différents niveaux analytiques interactifs, depuis l'analyse des processus cognitifs liés à l'apprentissage des gestes techniques jusqu'à l'analyse de processus d'ordre historique, culturel ou social. Alors, grâce à de très nombreux travaux dans le domaine de la technologie culturelle, portés par des anthropologues des techniques, par des sociologues, des archéologues, des expérimentateurs, des ethnologues, des historiens, on sait aujourd'hui que le système technique, et en particulier là la céramique, dispose d'une très forte valeur culturelle parce que c'est d'abord un marqueur de différenciation individuelle. La céramique permet en effet d'avoir accès à la figure emblématique de l'artisan, et en l'occurrence de l'artisan potier. Le système technique céramique dispose aussi d'une forte valeur culturelle parce que c'est un marqueur de différenciation collective, dans la mesure où les savoir-faire qui vont permettre la réalisation d'un objet céramique, les différentes manières de fabriquer cet objet à chacune des étapes de la chaîne opératoire, depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la réalisation des décors, en passant par la préparation de cette matière première argileuse et par exemple le montage ou la cuisson de l'objet, eh bien, chacune de ces techniques va s'appuyer sur des connaissances qui sont acquises durant un apprentissage, bien sûr, au sein d'une niche sociale dans laquelle le poids de la tradition, le poids des normes, le poids des rites, le poids des conventions, des interdits ou des tabous, et encore bien sûr le poids de l'héritage culturel prime. Alors en effet, on sait justement grâce à tous ces travaux dans le domaine de l'ethnologie ou de l'anthropologie des techniques, que lorsqu'un artisan réalise un objet, il va se référer à différentes compétences techniques, il va se référer à différents canons esthétiques qui vont émaner de l'ensemble de ces leviers qui constituent la niche sociale. De telle sorte qu'on considère aujourd'hui que les savoir-faire fixent le modèle culturel en cours dans une société, dans la mesure où un artisan, lorsqu'il va reproduire ses techniques, lorsqu'il va transmettre ses techniques à son tuteur au moment de l'apprentissage, eh bien, il va s'associer à l'identité sociale du groupe, il va revendiquer cette identité et permettre son maintien. Alors, ces postulats théoriques, mais aussi effectifs, résultent de très nombreuses années de recherche dans le domaine de la technologie culturelle, recherche pour lesquelles l'école française est de renommée internationale. D'abord un peu, on va dire, lancé par les travaux de Marcel Mauss, porté par les travaux d'André Leroy-Gourhan, et en particulier de deux équipes en France, celle de Technique et Culture et celle de Pré-Tech, avec des personnes comme Hélène Balfay, Pierre Lemonnier, Jacques Pellegrin, Valentine Roux, pour n'en citer que quelques-uns. On considère, avec ces différents travaux dans le domaine de l'anthropologie des techniques et aussi grâce à des analyses réalisées par différents psychomotriciens, qu'il est difficile pour lorsqu'un élève apprend un acte technique, eh bien de concevoir et de fabriquer des objets d'une autre manière que celle qu'il a apprise. Et ce, parce que lorsque l'on apprend un geste technique, on l'apprend non pas en innovant, mais en reproduisant son tuteur, de telle sorte que l'apprenti intègre ses habiletés motrices et cognitives selon un modèle culturel qui est le modèle culturel donc du tuteur, celui en cours dans sa culture. Ainsi, les gestes culturels sont des gestes traditionnels, bien sûr, et sont comme enregistrés par le sujet. Les possibilités d'innovation technique existent naturellement, puisqu'on les voit tout le long des parcours préhistoriques et historiques, mais ils vont se référer à d'autres leviers que je ne vais pas évoquer ici. On considère aussi, grâce à ces différents travaux sur l'anthropologie des techniques, qu'un processus technique, choisir une technique au moment de réaliser un objet, ne se constitue pas comme une réponse passive à des contraintes techno-fonctionnelles, des contraintes environnementales ou des contraintes liées par exemple aux matériaux. Je choisis telle technique parce que la matière première m'impose ces techniques. Mais au contraire, ce processus technique peut aussi répondre à une logique de choix profondément traditionnelle par rapport à la culture de son groupe. En effet, lorsqu'un artisan choisit une technique parmi différentes techniques possibles qui vont avoir la même finalité, il va choisir cette technique parce qu'elle est traditionnelle par rapport au groupe duquel il émane. Enfin, on considère grâce à ces travaux que le fait que l'apprentissage est fait au sein de groupes constitués d'individus qui vont être liés entre eux par des liens sociaux, ben, va maintenir la cohésion du groupe en assurant la reproduction, notamment la reproduction des techniques et la transmission des traditions. C'est la raison pour laquelle, dans le domaine de l'archéologie préhistorique ou aussi proto-historique, on porte une grande attention à l'étude des traditions techniques parce qu'elles permettent d'avoir accès à différents processus historiques, culturels ou sociaux, comme les processus de diffusion ou de circulation des idées et des hommes, comme les processus d'assimilation ou d'acculturation, ou enfin comme les processus de résistance culturelle. Lorsqu'on étudie des traditions techniques, puisque les individus marquent leur identité sociale dans ces traditions, on peut identifier des frontières sociales et des mécanismes de revendication sociale. Lorsqu'on étudie l'importation ou l'exportation de techniques, par exemple, dans des séries archéologiques, eh bien, on a accès à la mobilité des groupes humains. Lorsqu'on met en avant des temps d'imitation, eh bien, on peut avoir accès à des questions de l'ordre des transferts ou de la mixité culturelle. Et lorsqu'on s'intéresse à l'innovation de techniques, ou au contraire à l'absence d'empreinte d'une innovation technique entre des groupes aux affiliations sociales distinctes, on documente l'isolat, l'inertie ou le conservatisme culturel. Alors, pour avoir accès à ces différents questionnements du domaine de l'interprétation sociale, l'ethno-archéologie est d'un atout fondamental. Alors, faire de l'ethno-archéologie du système technique céramique, ce qui va donc générer toute une série de référentiels, eh bien, c'est collecter des données auprès de populations actuelles productrices d'un artisanat potier, se servir de ces données comme d'un système de référence qui va nous aider, archéologues notamment, à tester, élaborer des modèles de reconstruction et d'interprétation archéologique. Dans le domaine de l'ethno-archéologie et de la constitution des référentiels, il y a une littérature considérable, on va dire avec près de 60 années d'écrits, qui ont beaucoup posé la question de qu'est-ce que c'était que faire de l'ethno-archéologie et d'en sortir différents types de référentiels, avec des interrogations récurrentes. D'abord, est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est un outil de recherche? Est-ce que c'est une stratégie de recherche ou une discipline à part entière? Et d'autres questions comme quel sens donner au principe même de l'analogie, c'est-à-dire de se servir de ces référentiels obtenus auprès de populations actuelles pour éclairer les sociétés passées, quelles en sont donc les méthodes, comment faire le choix des contextes ethnographiques de référence, comment valider les hypothèses qui vont être formulées et proposer des modèles d'interprétation. Donc toute une série de questions. Lorsque l'on reprend la littérature sur le domaine de l'ethno-archéologie, notamment de l'ethno-archéologie des traditions potières et des référentiels, on peut dire qu'il y a quatre domaines d'analyse que sont l'ethno-histoire, dont je ne vais pas parler ici, faute de temps, la construction de modèles interprétatifs, des référentiels dans le domaine de l'ethno-archéométrie et des référentiels techniques dans le sens strict. Alors, concernant la constitution de modèles d'interprétation qui vont servir à l'interprétation sociale, souvent des archéologues lorsqu'ils vont étudier des séries archéologiques, des sites archéologiques, des ensembles de sites archéologiques, eh bien, on peut déjà, grâce à l'ethno-archéologie, constituer des référentiels autour de questions comme comment va se construire et se revendiquer une identité culturelle, individuelle ou collective. Quels sont les mécanismes de transmission entre les individus des savoirs et des savoir-faire concernant un artisanat et donc les mécanismes liés notamment au processus d'innovation, d'emprunt et de transfert. Pour illustrer cette question, enfin en tout cas ce volet qui consiste à établir des référentiels pour des modèles d'interprétation, j'ai pris l'exemple d'un programme de recherche qui a été dirigé jusqu'en 2016 par Valentine Roux de l'équipe Pretech et auquel on a pu, donc les différents auteurs de cette communication, participer. Il s'agissait d'un programme de recherche qui a donc constitué différents types de référentiels et qui visait à obtenir des réponses sur quelles sont les conditions pour que des groupes sociaux distincts qui sont en interaction, par exemple, qui interagissent, qui se connaissent, s'empruntent ou ne s'empruntent pas des traits techniques d'une chaîne opératoire. Alors, le programme de recherche de Valentine a porté sur 5 terrains ethnographiques sur lesquels ont été réalisées toute une série d'études expérimentales, des questionnaires, des observations portées ce programme par des psychomotriciens, des spécialistes des réseaux sociaux, des archéologues bien sûr, et sur 5 terrains: Équateur, Cameroun, Éthiopie, Kenya et Inde. Le but était, comme je vous l'ai dit, de comprendre la diffusion culturelle et les modalités de transfert culturel entre des groupes aux affiliations sociales distinct. Alors, juste un de ces aspects, un tout petit aspect exploré dans le cadre de ce programme, il était question notamment de s'interroger sur le fait que des groupes sociaux différents ne s'empruntent pas des traditions techniques alors qu'ils auraient pourtant tout intérêt à le réaliser en termes de rentabilité, de production, et ne le font pas forcément. Donc, une des questions qui a été explorée et qui a généré un référentiel expérimental, c'était peut-être que justement les communautés de potières qui se connaissent ne s'empruntent pas parce qu'elles n'en ont pas les capacités exploratoires, qu'elles n'ont pas suffisamment d'expertise dans le domaine de l'artisan pour être tentées d'accepter des nouveautés, d'emprunter, voire même d'innover. Donc, ça a été le travail dans le cadre du programme réalisé en particulier par Annelise Goujon, qui a, auprès de deux communautés de potières en Éthiopie, fait faire une forme que les potières ne connaissaient pas du tout, celle que vous voyez affichée ici sur l'écran, 12 exemplaires par potière, et ensuite, elle devait donc observer la manière dont ces potières avaient réalisé ces formes. L'idée, c'était que selon des psychomotriciens, si on analyse la régularité de l'épaisseur des parois sur les deux profils des vases, une moitié gauche et une moitié droite pour chacun des 12 exemplaires, on peut caractériser justement l'expertise d'un potier, sa plus ou moins grande expertise. Donc le protocole expérimental a généré toute une succession de productions potières qui ont ensuite été analysées à partir de critères métriques. Le but pour le psychomotricien, c'était notamment de constater si la potière ou le potier était capable de dépasser justement sa représentation culturelle traditionnelle de l'acte technique, résoudre de nouveaux problèmes, une forme qu'on ne connaît pas du tout, on tente de la faire du mieux que l'on peut, et explorer donc de nouvelles habiletés. Je ne donne pas forcément les résultats, c'est pour illustrer le fait que l'on peut générer dans le cadre de ce programme, dans le cadre de ce type de programme, des référentiels expérimentaux. Le troisième volet d'observation dans le domaine de l'ethno-archéologie et de la constitution de référentiels, c'est celui qui porte sur l'ethno-archéométrie. Donc, l'ethno-archéométrie, c'est faire l'usage de méthodes et d'outils du domaine de l'archéométrie sur des objets ethnographiques, analyser des matières premières, des produits à différentes étapes de la chaîne opératoire ou des produits finis pour établir des référentiels, améliorer des protocoles analytiques, contribuer à l'élaboration de modèles. Un des premiers qui a beaucoup travaillé sur ces questions, c'est le chercheur Dean Arnold, notamment dans le cadre de différentes analyses en contexte ethnographique auprès de la civilisation maya, mais il y en a eu d'autres après lui, comme Nadia Quentin, Anne Mayer ou Marie-Agnès Courty. Alors, Dean Arnold a notamment travaillé auprès de plusieurs communautés de potières, et c'était un des premiers à l'époque, donc dans les années 70-80, qui a réintégré le potier dans un environnement géographique, géologique, écologique, et qui s'est intéressé aux sources d'extraction de l'argile, qui a référencé les manières dont elles sont exploitées, qui a travaillé sur la nature des argiles employées, leur qualité, et qui a aussi établi des référentiels sur toutes les étapes de la chaîne opératoire céramique pour voir quelles étaient les étapes qui éventuellement transformaient véritablement la matière première au cours de tout le processus de fabrication. Alors, faire de l'ethno-archéométrie, c'est par exemple réaliser donc des analyses minéralogiques, élémentaires, structurales, et ce type d'études qui est aujourd'hui très largement développé lorsqu'on fait des analyses ethno-archéologiques, eh bien, permettent de s'interroger à terme sur les notions de choix des potiers face à leur environnement et à leurs contraintes techniques. On peut réfléchir sur la gestion des ressources, sur l'exploitation du territoire. On peut avoir des réflexions sur les questions de performance, de qualité du produit fini, de rentabilité, d'efficacité dans la production. Et enfin, le dernier domaine d'observation dans lequel des référentiels sont constitués lorsqu'on fait des terrains en ethno-archéologie, c'est la constitution de référentiels techniques. Alors, lorsqu'on étudie des séries archéologiques en tant qu'archéologue, on doit déchiffrer la culture matérielle pour justement identifier des traditions techniques, puisque ces traditions nous permettent d'avoir accès à différents processus d'ordre historique, culturel ou sociaux. On va étudier ces séries archéologiques en s'appuyant sur des référentiels photos qui existent déjà dans différents manuels. On va tenter donc d'identifier les techniques, analyser les stigmates qui correspondent à ces techniques par de l'observation macroscopique, mais aussi au travers d'analyses archéométriques. toute la difficulté pour l'artisanat potier, c'est que la succession des étapes de fabrication, puisque c'est de l'argile et que c'est changeant au cours du processus, eh bien, va oblitérer la succession de ces étapes, les différents stigmates au fur et à mesure que va être réalisé l'objet, et que donc, eh bien, il est forcément difficile d'obtenir une connaissance de la technique qui a permis de fabriquer le vase dans son état final. Il y a aussi plusieurs stigmates de fabrication qui ne sont pas univoques, une trace peut correspondre à plusieurs techniques différentes. Et enfin, on travaille souvent dans l'artisanat potier sur des mobiliers particulièrement fragmentés. Donc aujourd'hui, les terrains ethno-archéologiques ont aussi pour objectif de constituer des techs. Donc des techs, c'est-à-dire rapporter dans nos laboratoires ici en France, par exemple, toute une série de tessons archéologiques ou alors des vases entiers, des matières premières, des outils de potier, tessons, éléments sur lesquels on aura pris le soin auprès des communautés de potières ou potiers d'enregistrer toutes les manières de faire et donc au final de savoir qu'un stigmate correspond à tel geste technique. Le but de ces céramothèques, c'est ensuite naturellement qu'elle soit mise à disposition et des chercheurs et des étudiants pour leur formation, c'est-à-dire réussir à caractériser des techniques à partir de l'observation des stigmates sur des vestiges ethnographiques pour ensuite mieux reconnaître ces stigmates et donc les techniques et donc les traditions techniques sur les séries archéologiques. Dans le cadre du programme que nous avons dirigé en Éthiopie notamment, nous avons donc constitué un référentiel de près de 200 éléments ethnographiques qui va alimenter ce référentiel, la plateforme Archéosciences, et qui est en cours de mise en ligne sous la forme d'une base de données. Il existe déjà aujourd'hui des référentiels, donc comme la Technotech, je suppose, dont Isabelle va nous parler aujourd'hui ou demain, de Pretech, qui là aussi a compilé toute une série de référentiels ethnographiques qui servent à l'analyse, à la formation, à l'analyse pour les chercheurs, à la formation pour les étudiants. Donc, si on devait résumer très rapidement à quoi servent ces référentiels, en tout cas, quelles sont les analyses qu'ils permettent, on peut les résumer à quatre objectifs qui sont décrits notamment dans l'ouvrage de Valentine Roux. D'abord, on peut constituer des référentiels qui vont servir à l'analyse au niveau de l'objet et des chaînes opératoires. On va caractériser les propriétés physiques, chimiques et mécaniques selon lesquelles un objet a été fait. Une analyse au niveau du sujet, c'est-à-dire du potier à l'origine de la production de cet objet. On va notamment pouvoir, lorsqu'on fait des terrains en contexte ethnographique, les processus d'acquisition des habiletés motrices et cognitives impliquées dans la fabrication d'un objet. On va étudier les systèmes de production, reconstruire tout le système techno-économique dans lequel s'inscrit la fabrication d'un objet, l'organisation du travail par exemple, et bien sûr l'analyse sociale qui veut que les traditions techniques sont une vitrine du comportement social, un miroir de notions culturelles partagées et donc un moyen d'accès à l'activité historique des groupes étudiés, modèle qu'on peut ensuite utiliser dans le domaine de nos interprétations archéologiques. Enfin, réaliser des référentiels à partir de terrains ethno-archéologiques, ça a naturellement une autre vocation extrêmement importante, c'est celle de constituer des éléments voué à rester dans le patrimoine des pays concernés. Donc un exemple, celui du Musée national d'Éthiopie, où les différents terrains qui ont été réalisés dans le cadre de nos programmes ont permis de constituer une collection qui donc est vouée à être présentée dans le cadre notamment d'expositions pour un artisanat qui malheureusement est certainement en cours de voie de disparition à l'échelle mondiale. Voilà, c'était très rapide, mais j'espère avoir eu votre attention et je vous remercie pour cela.